froid. Comment oses-tu te pointer ici, espèce de salaud ? Dégage ! Je ne veux plus te voir ! M'insulta Lisa avant de me claquer la porte au nez. Nos retrouvailles avaient duré moins de 10 secondes. Je m'étais présenté devant chez elle, le cœur battant, la fleur au fusil, mais elle ne s'était pas pressée pour venir m'accueillir. En tendant l'oreille, j'avais perçu très clairement une voix masculine dans l'appartement, ce qui m'avait planté une première flèche dans le cœur. Tu t'attendais à quoi, au juste, mon petit Arthur ? Lorsqu'elle s'était enfin décidée à m'ouvrir, j'avais retrouvé sa présence solaire avec soulagement. Vêtue d'une troublante nuisette bleu pâle, elle avait changé de coiffure et portait une frange bien coupée. Ses cheveux longs étaient raides comme des baguettes. Mais ses yeux turquoises avaient viré au marine charbonneux et me dévisageaient avec autant de mépris que d'animosité. Je m'apprêtais à lui dire combien j'étais heureux de la revoir lorsqu'elle m'avait traité de salaud. Sans me décourager, je laissai le doigt appuyé sur la sonnette pendant plus d'une minute.
« Tu vas te calmer, mon gars ?»
Torse nu, un grand type baraqué apparut dans l'entrebâillement de la porte.
« T'es peut-être un peu dur de la feuille, mais Lisa t'a demandé de foutre le camp, »
dit-il en me toisant avec dédain, avant d'esquisser un sourire moqueur en avisant mon accoutrement de cuistot. Beau comme une gravure de mode, le type faisait 2 têtes de plus que moi. Il ne portait qu'un caleçon serré, censé mettre en valeur ses attributs virils, et arborait des abdominaux sculptés en tablettes de chocolat. « Toi, reste en dehors de ça !» répondis-je sans me laisser impressionner. Je voulus forcer le passage, mais il m'empoigna par le cou et me projeta dans les escaliers avant de refermer la porte.
« C'est pas gagné !» me désolai-je en m'asseyant sur les marches.
Dans ma chute, je m'étais blessé à l'avant-bras. Je me massai le poignet, adossé à la rambarde, lorsque j'aperçus Remington qui sauta dans mes bras.
« Hello, mon vieux complice !»
Alors que le félin approchait la tête pour recevoir son lot de caresses, une idée germa dans mon esprit.
Elisabeth, je détiens ton chat en otage,
criai-je suffisamment fort pour être entendu.
Si tu veux le récupérer, viens me rejoindre dans la rue.
Je tendis l'oreille et perçus quelques bribes d'une conversation qui me donnait à espérer.
Je t'avais dit de faire attention au chat,
lança Lisa à son bel âtre qui lui répondit par des bougonnements.
Si tu tiens à la vie de ce pauvre Remington, ne t'avise pas de m'envoyer ton garde du corps,
prévins-je en descendant l'escalier. Moins d'une minute plus tard, Lisa apparut sur le perron. Elle avait enfilé un jean troué, de vieilles Air Max et une brassière.
« Rends-moi mon chat. »«
Bien entendu que je vais te le rendre. Mais d'abord, tu dois m'écouter. »«
Non, tu ne le mérites pas. Il y a un an, tu t'es tiré au petit matin comme un voleur, sans laisser de message, et tu ne m'as jamais rappelé. »«
C'est vrai. Mais j'ai une bonne raison. »
Elle ne me demanda pas laquelle. À la place, elle continua à déverser sa rancœur.
« Tu as l'air de l'avoir oublié, mais on s'était beaucoup parlé cette nuit-là. » Parce que tu m'avais sauvé la vie, je t'avais confié des choses très intimes. Parce que j'avais confiance en toi, parce que je croyais que tu étais différent.
En un sens, je suis différent.
Ça oui, tu es encore plus minable que les autres. Et qu'est-ce que tu crois ? Que je me jette au cou de tous les types qui passent ?
En tout cas, t'as pas mis longtemps pour me remplacer.
Quel culot !
S'insurgea-t-elle.
C'est toi qui n'es jamais revenu !
Elle leva le bras pour m'envoyer une gifle que je bloquais de justesse. Remington en profita pour sauter sur le trottoir. Lisa le prit dans ses bras et fit demi-tour pour rentrer chez elle.
« Attends, laisse-moi t'expliquer !»
ordonnai-je en la suivant.
« Te fatigue pas, Arthur. Sullivan m'a déjà tout raconté. »
Je remontai à son niveau.
« Comment ça ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»«
Ce qu'il aurait dû m'avouer bien avant. Que tu agissais comme ça avec toutes les femmes, que tu étais marié, que tu avais des enfants et que... »
Le salopard.
Je lui barrai la route avec le bras pour l'empêcher d'entrer dans l'immeuble.
« Laisse-moi passer. Je te jure que tout cela est faux. » Pourquoi ton grand-père m'aurait-il menti alors ?
Parce qu'il est fou. Elle secoua la tête.
Ah non, tu ne me feras pas croire ça. Je suis resté en contact avec Sullivan. Je passe le voir 2 fois par semaine. Et crois-moi, il a bien toute sa tête.
Écoute, Lisa, c'est une longue histoire.
Peut-être. Mais je n'ai ni l'envie, ni le temps que tu me la racontes.
4. MacDougall Alley. 9h du matin.
« Salut, gamin !»
m'accueillit Sullivan sur le pas de la porte de sa maison.
« Arrête avec ça, je suis pas un gamin. »
Il ouvrit les bras pour m'embrasser, mais je n'étais pas d'humeur. Je refusais ses effusions et entrai dans le hall sans le saluer.
« Fais comme chez toi »
soupira-t-il. C'est en effet ce que je fis. Je montai dans la salle de bain et me débarrassai de mes loques ridicules.
Il me fallait une douche d'urgence. Je puais la transpiration et l'odeur de chou dans laquelle j'avais trop longtemps macéré. Sous le jet d'eau brûlant, je vidais un demi-flacon de gel douche pour décaper mon corps et me défaire des effluves de la cuisine du Bronx. Je m'aspergeais ensuite de l'eau de Cologne désuète de Sullivan, dont j'aimais les notes de lavande. Enfin, dans ma chambre, j'enfilais un pantalon en coton, une chemise à manches courtes et une veste en lin. Sur la commode, je trouvais 4 billets de $50, sans doute laissés par mon grand-père à mon intention. J'empochai l'argent. Sans perdre de temps, je descendis au rez-de-chaussée. Des enceintes de l'électrophone jaillissaient des notes de Bill Evans, « You must believe in spring », la célèbre composition de Michel Legrand. Un cigare à la bouche, Sullivan était assis à la table du salon devant un ordinateur portable. De petites lunettes sur le nez, il scrutait son écran rempli de données boursières. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en pointant le moniteur. « Un CD-ROM ?»«
C'est un site web de courtage en ligne. »
Je fis des yeux ronds. « Un site web ?»«
Une connexion à un service informatique, si tu préfères. Grâce à Internet, tu peux passer des ordres de bourse directement de chez toi. »
« C'est quoi, Internet ?» Il ne put réprimer un sourire.
« J'ai 75 ans et c'est moi qui vais t'expliquer ce qu'est le web. »
« Épargne-moi tes remarques ironiques. »«
Quel susceptible. Eh bien, Internet, c'est un réseau informatique mondial qui permet d'échanger des informations et d'accéder à plusieurs services, tels que... »
Je le coupais. « Tu t'y connais en bourse, toi ?»«
J'ai fait quelques transactions lucratives au début des années 1950. »
répondit-il, faussement modeste. Puis il tourna vers moi son écran où s'affichait une série de graphiques.
« Et en ce moment, nous sommes à l'aube d'une période incroyable. Les valeurs technologiques ont le vent en poupe et ce n'est que le début. Depuis un an que je boursicote, j'ai déjà doublé mon capital. Tu te rends compte? Si un jour on m'avait dit que ce serait si simple que ça de gagner de l'argent... »
Je passai derrière le bar et posai ma veste sur le dossier d'une chaise haute. À côté des bouteilles de whisky se trouvait un vieux percolateur de marque italienne. Pour me remettre de mes émotions, je me préparais un double expresso agrémenté d'une larme de brandy. « Comment peux-tu acheter ou vendre des actions alors que tu n'as même pas de compte bancaire ?» Il haussa les épaules.
« Grâce à un prête-nom, c'est un jeu d'enfant. Figure-toi que j'utilise les coordonnées financières de Lisa et qu'en échange, je lui reverse un pourcentage de mon gain. »
Je faillis exploser. « Parlons-en justement de Lisa. Pourquoi lui as-tu raconté un tissu de mensonges à mon sujet ?»
« Parce qu'un bon mensonge vaut mieux qu'une mauvaise vérité. Sérieusement, que voulais-tu que je lui dise d'autre ?»
Il se leva à son tour et se servit directement un cognac sans passer par la case café.
« Je continuerai à te savonner la planche !»
me prévint-il.
« Mais putain, pourquoi ? Tu ne crois pas que j'en bavassais comme ça ?»«
Il ne faut plus que tu vois Lisa, c'est tout. Si tu as envie de tirer ton coup, prends $500 dans le coffre, les bars des hôtels chics pullulent de call girl. »
« Tu vas vraiment finir par te prendre mon poing dans la gueule. »
Sullivan but une lampée d'alcool.
« Je ne veux que le bonheur de Lisa. Le tien aussi. »
« Mêle-toi de tes affaires dans ce cas. Je suis assez grand pour savoir ce qui est bon pour moi. »
Il secoua la tête.
« Pas dans ta position. N'oublie pas que j'ai déjà expérimenté ce que tu es en train de vivre. »
« Justement, j'attendais plutôt un coup de main de ta part. »
« C'est ce que je fais en te dissuadant de voir cette fille. » Tu vas lui faire du mal, et tu vas te faire du mal, à toi aussi. »
Il me mit la main sur l'épaule et articula d'un ton grave.
« Tu as vu où tout cela m'avait mené. J'ai tué la femme que j'aimais. J'ai passé plus de 10 ans dans un hôpital psychiatrique. »
« Merci pour tes conseils, mais ça ne te donne pas le droit d'interférer dans mes choix. D'ailleurs, c'est à cause de toi si je suis dans cette situation. »
Il s'insurgea.
« Tu ne peux pas me rendre responsable de toutes tes erreurs. Ce serait trop facile. »
Je n'avais rien demandé à personne, moi. Je menais ma vie tranquille. C'est Franck qui est venu me trouver. Franck, ton fils. Ton fils qui est devenu un sale type, parce que tu l'as abandonné pour aller vivre avec cette Sarah. C'est ça, la vérité. »
Il me prit par le col de mon polo. Malgré son âge, il avait encore une force de taureau.
« Fais très attention à ce que tu dis, petit. »
« Tu ne me fais pas peur, » répliquai-je en le plaquant contre une boiserie. N'oublie jamais que si tu es dans cette pièce, si tu peux écouter tes disques de jazz, boire ton whisky, fumer tes cigares, jouer en bourse derrière ton écran, n'oublie jamais que c'est grâce à moi. C'est moi qui suis venu te délivrer de cet hôpital. Moi ! Pas ton fils, pas tes copains, pas mon frère, pas ma sœur. Moi !
Alors qu'il baissait les yeux, je le libérai de mon emprise.
Je ne veux plus jamais te voir, Sullivan,
dis-je en enfilant ma veste.
Je vais essayer de rattraper le coup avec Lisa,
mais ne t'avise plus de lui parler de moi. J'étais déjà dans le hall.
Avant de m'en aller, je ne pus m'empêcher de lui balancer.
Si tu t'opposes encore à moi, la prochaine fois, je te jure que je te ramène à l'asile.
5.
Lisa, si tu es là, ouvre-moi!
Un taxi m'avait déposé au pied de l'immeuble d'Amsterdam Avenue. Depuis une minute, je tambourinais à la porte, mais l'appartement était silencieux, à l'exception du chat qui miaulait de temps en temps. Il était presque midi. Où pouvait-elle bien être au cœur de l'été, le premier dimanche du mois d'août? Pas à la Juilliard School, en tout cas, ni au bar de l'East Village. Je redescendis les marches. Mon chauffeur de taxi, un indien sikh coiffé d'un turban, avait garé sa Ford Crown dans la contre-allée et prenait sa pause déjeuner à l'ombre d'un ginkgo. Adossé au capot de son véhicule, il dévorait à pleines dents un pain pita. Déconfit, je me tournais de tous les côtés, cherchant l'inspiration, guettant un signe. Les boîtes aux lettres. Dans la cage d'escalier, les boîtes aux lettres avaient tout un imprimé rose coincé dans leur fente. Les prospectus n'étaient pas là lorsque j'étais venu ce matin, et celui ou celle qui les avait distribués les avait volontairement laissés en évidence. Je pris l'un des flyers et reconnus la silhouette stylisée de Shakespeare avec son crâne dégarni, ses moustaches et sa barbiche pointue. Un court texte en forme d'invitation annonçait « À l'occasion de la 34e édition du festival Shakespeare in the Park, les élèves de dernière année de la Juilliard Drama School donneront une représentation exceptionnelle de la pièce de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, le dimanche 4 août à 13h30 à l'auditorium du Delacorte Theatre. Entrée gratuite. »
Je bénis le ciel. C'est là que se trouvait Lisa. Mon chauffeur ayant terminé son sandwich, je lui montrai le prospectus et il alluma son moteur. En ce début d'après-midi, l'atmosphère était étouffante. Les trottoirs de Manhattan étaient écrasés par le soleil et la circulation ne m'avait jamais paru aussi fluide. En moins de 10 minutes, nous descendîmes le long de Central Park West jusqu'au musée d'histoire naturelle. Le sikh me déposa au niveau de la 79e rue et m'expliqua comment rejoindre l'auditorium. Je réglai ma course, le remerciai et traversai la rue pour m'aventurer dans Central Park. Plusieurs banderoles annonçaient la représentation du songe d'une nuit d'été. Je connaissais la pièce pour l'avoir jouée au lycée. En suivant les indications du chauffeur, j'arrivais bientôt devant un théâtre en plein air, situé au milieu des arbres à quelques pas du Belvedere Castle. C'est dans ce cadre champêtre que chaque été, depuis plus de 30 ans, des troupes théâtrales organisaient des représentations gratuites des pièces du maître de Stratford. Je parcourus les alentours de l'auditorium. Il y avait foule dans le parc. Des touristes, des amateurs d'art dramatique, des enfants qui prenaient d'assaut les marchands ambulants de glace et de soda. Je repérai Lisa en compagnie des acteurs de sa troupe, sous une grande tente installée en plein air qui servait de loge collective. Je reconnus la gravure de mode, Monsieur Tablette de Chocolat, qui m'avait projeté dans les escaliers. Il avait troqué son caleçon de marque pour le costume à peine plus vêtu de Démétrius. Quant à Lisa, elle portait avec grâce le diadème scintillant et la robe enchantresse de Titania, la reine des fées. Un titre qui lui allait à merveille. Dire qu'elle ne fut pas ravie de me voir serait un euphémisme. Tablette de Chocolat voulut s'interposer, mais cette fois j'étais sur mes gardes, et c'est moi qui ouvris les hostilités en lui balançant un coup de genou dans les parties qui le cloua au sol. Alors qu'on attaquait un des leurs, Thésée, Égée et Lysandre voulurent fondre sur moi, mais la reine des fées s'interposa.
« Arthur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi as-tu décidé de me gâcher la vie ?»
Il y avait tellement de dépit dans ses paroles que pendant un bref instant, je me demandais effectivement pourquoi je m'accrochais à cette fille.
« Il faut vraiment que tu m'écoutes, Lisa. J'ai autre chose à faire, là. On va entrer en scène dans quelques minutes. Je répète cette pièce depuis 6 mois, c'est très important pour moi. »
« Je sais, mais ça ne peut pas attendre. Alors voilà ce que je te propose. Tu m'écoutes un petit quart d'heure et ensuite, si tu décides de ne plus me revoir, je te promets que tu n'entendras plus jamais parler de moi. »
« D'accord, »
soupira-t-elle au bout de quelques secondes.
« Je te laisse 10 minutes. »
On s'éloigna de ses amis pour pouvoir discuter en paix. Comme sa robe était longue et qu'elle portait de grandes ailes d'ange en fil de fer accrochées dans le dos, nous ne pûmes pas aller très loin. Nous nous assîmes donc sur l'un des bancs publics, dans une zone ombragée à une dizaine de mètres de la tente. À côté de nous, un rouquin à lunettes de 5 ou 6 ans suçait une glace italienne en se pâmant devant Lisa, alors que sa mère était plongée dans le dernier roman de John le Carré.
« Bon, qu'est-ce que tu as de si important à me dire ?»
s'agaça-t-elle.
« Tu ne vas jamais me croire. Ce qui m'arrive est inimaginable et pourtant bien réel. Accouche, tu veux ?»
Je pris ma respiration comme si j'allais effectuer une plongée en apnée
Et pendant 10 minutes, sans lui laisser la possibilité de m'interrompre, je lui balançais tout. Mon père, le phare, la porte métallique de la cave, comment je m'étais retrouvé dans la cathédrale Saint-Patrick, la première fois où j'étais apparu sous sa douche, comment je l'avais sauvé en me réveillant dans l'atelier de son ancien petit ami, le drame de Sullivan, la malédiction des 24 vents. Arrivé au bout de mon tunnel d'explication, je guettais sa réaction avec appréhension.
« Donc, si je comprends bien, ton excuse pour ne pas m'avoir rappelé, c'est que tu ne vis qu'un seul jour par an ?»
demanda-t-elle, impassible. « Voilà. Moi, je t'ai vu hier, mais pour toi, ça fait presque un an. »«
Où es-tu lorsque tu n'es pas là ?»«
Je ne suis nulle part, justement. Je n'existe pas. »
« Et ça se passe comment lorsque tu t'évapores ?» demanda-t-elle ironiquement. « Comme dans Star Trek ?»«
Je me volatilise, c'est tout. Ce n'est ni un pouvoir de super-héros, ni un tour de magie à la David Copperfield. » Elle eut un rire nerveux.
« Tu as fait évader ton grand-père d'un hôpital psychiatrique, mais tu as bien conscience que c'est toi qui devrais t'y trouver, n'est-ce pas ?»
J'encaissais le sarcasme, mais je constatais une curiosité, une inquiétude.
« Donc là, tu vas disparaître, devant moi. »
« J'en ai bien peur. » J'en étais même certain. Depuis quelques secondes, je sentais les picotements dans mes membres, les taches noires devant mes yeux, l'odeur douce de la fleur d'oranger. De toutes mes forces, j'essayais de nier ces sensations, de les repousser, de les refouler. Il fallait que je tienne encore un peu. Lisa était toujours là, pensive. Je devinais un trouble dans son regard. Logiquement, elle aurait dû prendre peur et filer Fissa, mais quelque chose la retenait. « Je dois te dire un truc, » commença-t-elle. « Ça n'a peut-être pas d'importance. » Elle avait éveillé ma curiosité, mais elle s'arrêta aussi soudainement. Mon corps s'était mis à trembler, des soubresauts incontrôlables. Je regardais autour de moi, craignant les conséquences si quelqu'un me voyait, mais personne ne faisait attention à moi, à l'exception du petit rouquin à lunettes.
« Lisa, continue, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux me dire ?»
Mais la jeune femme restait muette, tétanisée par ce à quoi elle assistait. Mes oreilles bourdonnèrent. Il y eut le bruit désormais familier de l'aspiration et cette impression toujours déstabilisante de se dissoudre.
« Arthur !»
cria-t-elle. Mais mon corps avait déjà disparu. Toujours en léger décalage, je m'en rendis compte alors, mon esprit demeura sur les lieux une ou deux secondes supplémentaires. Juste le temps de voir Lisa, dans sa belle robe, s'évanouir sur la pelouse. Sur le banc, à côté, Poil de Carotte lâcha son cornet de glace et secoua sa mère.
« T'as vu, maman ? T'as vu, dit ?» La reine des fées, elle a fait disparaître son amoureux.